sœurs et frères, la question qui vous a guidé lors de cette semaine de réflexion était « Où va le monde ?» Et cette question, je voudrais la retenir ou la traduire à travers cette autre, peut-être un peu plus précise, à savoir quels sont les défis auxquels, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés. Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que citoyens, en tant qu'habitants de la terre et aussi en tant que chrétiens. À cet égard, je pense que l'on peut dire sans hésitation que le défi majeur est celui qui est constitué par la prise de conscience que l'humanité dans son ensemble, que les hommes ont la possibilité en main de détruire la terre. La prise de conscience de cette possibilité est récente. Elle remonte à 1945 avec le lancement de la bombe atomique. Et le philosophe Karl Jaspers, qui a écrit un grand livre sur la bombe atomique, a montré au fond comment, pour la première fois dans l'histoire humaine, il apparaissait que les hommes avaient la possibilité d'anéantir la vie sur la Terre. Cette possibilité, aujourd'hui, elle se redouble dans la crise écologique. Le changement climatique, le recul de la biodiversité, les effets des produits chimiques sur la santé, la pollution des sols et des mers, les particules fines dans l'atmosphère, les pénuries qui s'annoncent, celles de l'eau en particulier, et qui vont nécessairement être source de nouveaux conflits. Tout cela est annonciateur de catastrophes et menace de destruction les conditions de la vie sur la Terre. À vrai dire, cette menace n'est pas nouvelle. Nous en trouvons l'avertissement dans la Bible. Et peu après le récit de la création, dans le récit du déluge. Vous vous souvenez que le récit du déluge commence par le fait que Dieu constate que la terre s'était remplie de violence. Et le déluge, en quelque sorte, constitue la traduction, la conséquence de cet état de fait. Quand la terre se remplit de violence, c'est comme si un déluge venait sur elle. Aujourd'hui, nous voyons que la violence à l'égard de la nature n'est pas moindre et n'est pas moins destructrice que la violence à l'égard des humains. Et ce défi nous renvoie à ce qui est aujourd'hui la responsabilité majeure de l'humanité, qui est de sauvegarder la paix et de sauvegarder la création. L'un et l'autre ne pouvant pas ne pas aller ensemble. Face à ce défi, quelle peut être la contribution chrétienne de la réflexion théologique, mais pas seulement de la réflexion théologique, de l'attitude, du style de vie des chrétiens dans le monde tel qu'il est ainsi. Pour réfléchir tout d'abord à cette responsabilité, je rappelle, et nous l'avons lu, La manière dont le récit de la création nous dit que l'homme a été créé par Dieu comme image de Dieu et appelé à dominer la terre. Il faut se souvenir tout d'abord que l'expression « image de Dieu » est une expression que les auteurs de la Bible n'ont pas inventée, qui vient de l'idéologie royale, en particulier égyptienne. Le pharaon est l'image de Dieu. C'est-à-dire que le pharaon est sur terre le représentant de Dieu et qu'il gouverne en tant que représentant de Dieu, qu'il gouverne en son nom. Dans la Bible, ce n'est pas seulement le roi qui est l'image de Dieu, mais tout être humain. Et cela signifie que l'être humain, tout être humain, exerce dans la création une fonction royale. L'être humain a été créé pour cette fonction. Et le terme de dominer, l'appel à dominer la terre, ne fait que traduire, qu'expliciter cette fonction d'image de Dieu. C'est parce qu'il est le représentant de Dieu qu'il a le mandat de dominer la terre. Et cela signifie que l'être humain, Dieu lui confie une capacité d'initiative, il lui confie une créativité. Et par conséquent, la mise en œuvre, la mise, en valeur de la terre, le fait de cultiver, le fait de bâtir, le fait de développer une culture, tout cela ne va pas contre le projet de Dieu, mais va dans le sens du projet de Dieu. Mais en même temps, que Dieu donne à l'homme une liberté d'agir, il lui donne aussi une responsabilité. Et c'est parce que l'être humain a souvent oublié cette responsabilité que de nombreux penseurs, de nombreux défenseurs de la nature ont attaqué la tradition biblique en l'accusant précisément en faisant de l'homme l'image de Dieu, en confiant à l'homme ce mandat de dominer la terre, d'avoir légitimé d'avance le saccage de la création, l'exploitation sans limite de la nature. On accuse la tradition biblique d'avoir désacralisé la nature et donc d'avoir donné libre cours à l'exploitation de la nature au seul profit de l'homme. Mais quand le texte de Genèse 1, du premier chapitre de la Genèse, appelle l'homme à deviner, à dominer, cela ne veut pas dire, comme l'a traduit Descartes au XVIIe siècle, cela ne veut pas dire devenir maître et possesseur de la nature, d'exercer sur la nature un droit de possession, c'est-à-dire comme le définissent les traités juridiques, n'est-ce pas ? Posséder, cela veut dire avoir un droit d'user et d'abuser. Dominer dans la Bible, cela veut dire cultiver et garder. Et la figure de cette domination, c'est précisément au cœur du récit du déluge, la figure de Noé. Noé, celui qui, en quelque sorte, agit pour préserver la possibilité de la continuation de la vie sur la terre. La tradition biblique ne légitime en aucune manière une exploitation sans limite de la nature, au seul profit de l'homme et encore moins au seul profit des grandes compagnies multinationales. La domination est confiée à l'être humain en tant qu'il est image de Dieu. Autrement dit, il est appelé à régner sur la terre, à exercer cette fonction royale de la part de Dieu. Et donc, l'être humain est appelé à régner comme Dieu règne. Mais comment Dieu règne-t-il ? La grande question, et c'est la grande question de la Bible, précisément de nous éclairer sur la manière dont Dieu règne et sur la manière dont il ne règne pas, dont règnent au contraire les idoles. Le règne de Dieu ne consiste pas à opprimer, mais à servir. Et c'est de ce renversement que Jésus de Nazareth a été le porteur. Comme vous le savez, le règne de Dieu est au cœur de la prédication de Jésus. Et au cœur de la prédication de Jésus, il y a le désir, et le désir qui va jusqu'au don de sa propre vie, le désir de nous faire comprendre en quoi consiste le règne de Dieu. Il consiste dans le service. Et c'est ainsi que Jésus constitue la figure du serviteur. Servir, on peut le traduire par un terme qui vous parlera peut-être plus immédiatement. Servir, c'est prendre soin. Vous savez tous qu'il n'y a pas de vie, ni humaine, ni animale, ni végétale, sans que quelqu'un prenne soin. Et c'est d'ailleurs pour cela que pédagogiquement, c'est tellement important, par exemple, de donner à un enfant un animal à élever, ou bien une plante, pour apprendre de quelle manière la vie ne subsiste que si l'on en prend soin. Et précisément, prendre soin, cela signifie prendre en compte, porter attention à la fragilité de la vie, à la vulnérabilité de la vie. Le soin suppose en ce sens, je dirais, deux choses, le sens de la relation et le sens des limites. Le sens de la relation, parce que on ne peut prendre soin de quelque chose que si l'on est, d'une certaine manière, lié à ce dont on prend soin. Si vous avez un jardin ou bien des fleurs sur le balcon, vous en prenez soin parce que vous êtes attaché à ce jardin, vous êtes attaché à ce qui se pousse, ou bien vous êtes attaché à un animal. Et les paysans d'avant l'élevage industriel savaient aussi ce qu'était le rapport à leurs animaux. Et dès qu'il y a une relation, il y a aussi des limites. Il faut prendre garde à l'autre. On ne peut pas tout dire, tout faire. On ne peut pas simplement accaparer, comme si l'on avait simplement tous les droits. Et vous voyez que dans la manière, dans la civilisation industrielle et technique, dans la manière dont la nature est exploitée, ce sens du lien et ce sens de la relation tendent à disparaître, sont menacés. Et le fait que ce sens de la relation, ce sens des limites disparaît, mesure le degré de violence de notre emprise sur la nature et sur les animaux en particulier. Nous ne voyons plus dans ces conditions ce qui nous relie à la nature. Nous ne voyons plus non plus les limites que nous devons mettre à notre emprise, à notre volonté d'accaparer les richesses naturelles, à notre ivresse de consommation. Or, si nous prenons conscience que Dieu nous a créés, nous a placés dans un monde qui est sa création, nous savons que nous sommes dans un monde fini, dans un monde qui, en tant que création, est un monde fini, et dans lequel notre responsabilité est liée à la prise de conscience de ses limites. Dans un monde fini, une croissance sans limite n'est tout simplement pas possible. Pourtant, comme vous le savez, on ne parle aujourd'hui que de croissance. On ne voit de salut que dans la croissance. Et l'on pourrait dire que c'est là le grand aveuglement, la grande idolâtrie de notre mode de vie, de notre conception de la vie collective. Et en tant que croyants, c'est à cette idolâtrie que nous sommes confrontés, et c'est elle que nous avons à combattre. Parce que c'est cette idolâtrie qui a pour conséquence que on ne prend pas et qu'on ne peut pas prendre soin, qu'on ne prend pas et que l'on ne peut pas prendre véritablement en compte la fragilité de la nature et des êtres vivants. Nous savons tous collectivement que nous allons vers des catastrophes et nous ne faisons rien, et je dis bien rigoureusement rien. Les conférences mondiales, les politiques publiques sont essentiellement marquées par des engagements non tenus et par des renoncements. En tant que chrétiens, nous sommes mis au défi. Nous savons que vivre sans limite, c'est exactement la tentation que donne au monde le prince de ce monde: vous serez comme des dieux. Et nous savons aussi, au regard de l'enseignement de la Bible, que céder à cette tentation ne peut être que source de mort. Retrouver le sens de la création, c'est retrouver le sens de la relation, le sens des limites. Il ne s'agit pas seulement d'en faire la théorie, d'y réfléchir théologiquement, même s'il est important que cette réflexion théologique soit une inspiration. Mais nous avons besoin aussi, pour le témoignage de la communauté chrétienne, de retrouver, d'inventer un style de vie qui soit significatif de notre confiance en Dieu, de notre sens de la création et de notre espérance. Travailler à la définition, à l'invention, à la mise en place d'un tel style de vie, c'est à quoi l'Évangile nous encourage et nous appelle. Amen.